France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Weekend. Et ce matin, une petite sélection des comédies des années 2000 avec l'auteur de l'essence de la comédie, Yves Lavandier, ainsi que l'animateur de Blockbuster, Frédéric Sigrist. Eh bien, ils vous conseilleront leurs comédies préférées de Borat à la Tour Montparnasse Infernale, du très potache au très sophistiqué. Il y en aura pour tous les goûts. Bonjour Céline Puertas.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef adjointe du magazine Elle à table, la recette à partager ce week-end.
Alors je suis plus adjointe, maintenant je suis rédactrice tout court.
Ah voilà. Tout court,
bravo
voilà,
à moi.
Bah, ouais. Bravo.
aujourd'hui je vais vous proposer avec un peu d'avance sur la saison une recette de panna cotta à la pêche et au romarin qui fleure bon l'été et l'Italie.
Bonjour Christine Appelé-Douel.
Bonjour Ali.
Journaliste indépendante et autrice de ces livres qui nous font du bien au menu de votre plaisir littéraire.
Ou un livre vraiment tellement, comment dire, joli et qui donne du courage, voilà.
À tout à l'heure. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Honorable professeur de philosophie dans la vraie vie, quel est le menu de votre chronique philo ?
Eh bien, ça ne vous aura pas échappé, et comme à nos auditeurs et auditrices, hier c'était la fête du travail. Question donc, qu'y a-t-il vraiment à fêter dans le travail ?
Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique Cinéma Télérama, qui deviendra notre ami cette semaine ?
Bouh !
Oula.
Bah voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Bah c'est un petit mot et une petite chose qui en fait va contre toutes les peurs.
Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
Quand vous n'enseignez pas la linguistique à la Sorbonne, quand vous n'êtes pas au téléphone sonne hier soir, vous passez une tête dans le studio 621 pour votre chronique Mauvaise Langue.
Oui, on va. Non, moi c'est avec la langue.
Oui, avec la langue, pardonnez-moi.
Mauvaise, parfois.
Mauvaise Langue, c'est évidemment notre amie Sandra Colombo.
Et donc aujourd'hui, on va réfléchir au type de phrase qu'a prononcé Nicolas Demorand l'autre jour, « Je suis un malade mental », qui est la première phrase de son roman, enfin de son récit intérieur. Nuit, et ça s'appelle retourner le stigmate. C'est une stratégie ancienne. On va en parler d'un point de vue linguistique.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Allez, Rébéi.
Contente-toi de poser tes questions, d'accord ? C'est tout. Parce que tu vois, les bonnes femmes, elles en ont rien à branler de ce que t'as à raconter. Rien à cirer du tout. Tout ce qu'elles veulent, c'est seulement parler d'elles. Alors tu les laisses gentiment faire. D'accord ? Ouais. Oublie pas, des questions. Plus rester cool et un peu mielleux. Ah tiens, le mieux encore à faire, c'est de te la jouer jazzy.
Ok, je vois tout à fait de quoi tu parles.
Tu l'auras, c'est gagné.
Extrait de 40 ans, toujours puceau de Judd Apatow, sorti en 2005. Bonjour Yves Lavandier.
Bonjour Ali.
Script doctor, auteur dramatique, cinéaste, on vous doit une bible, ça s'appelle La Dramaturgie. Et vous avez notamment publié L'essence de la comédie, publié aux Impressions Nouvelles. Bonjour Frédéric Sigrist.
Bonjour Ali.
Comédien, humoriste et producteur de Blockbuster en podcast et l'été sur France Inter. Et avec nous, bien sûr, Guillemette Audicino pour participer à cette sélection des meilleures comédies des années 2000. Première question assez difficile, et ça tombera sur vous, Guillemette.
Ah, quelle
est la spécificité de la comédie des années 2000 ? Alors, on va s'intéresser ce matin surtout aux comédies françaises et anglo-saxonnes. La spécificité de ces comédies par rapport aux deux décennies précédentes. C'est vrai qu'aux États-Unis notamment, on assiste à un véritable renouvellement avec l'émergence de nouveaux cinéastes, de nouveaux comédiens. Et parmi ces comédiens, on peut citer Jim Carrey, Kristen Wiig, Sacha Baron Cohen, Tina Fey, Maya Rudolph, Melissa McCarthy, Will Ferrell, Ben Stiller, Seth Rogen, Jonah Hill, Steve Carell ou encore Adam Sandler. Il y a un vrai renouvellement dans les années 2000 dans la comédie anglo-saxonne et américaine en particulier.
Oui, alors bon, c'est toujours compliqué de dire « Ah tiens, à partir du 1er janvier 2000, tout le monde s'est mis à rire différemment ». Bon, non. Mais ce qui est absolument certain, c'est qu'aux États-Unis, avec tous ces gens ô combien talentueux que vous avez cités, il s'est passé quelque chose, disons, sur vraiment l'humour pas correct. D'autant qu'en fait, tous ces gens-là arrivaient plus ou moins ou de la scène, ou du Saturday Night Live. Donc, c'est-à-dire, c'était des humoristes, des gens qui faisaient du stand-up, qui avaient le sens de la vanne incroyablement développé, et qui n'avaient pas peur d'aller dans des zones, disons, d'inconfort, c'est-à-dire qui traitaient de la honte, mais aussi du quotidien ordinaire. C'est-à-dire que, quand vous parlez de tous ces Ben Stiller, Jim Carrey, etc., la plupart de ces comédies, on vient de l'entendre avec 40 ans toujours puceau, par exemple.
Judd Apatow.
Ce sont des mecs, souvent des mecs d'ailleurs. Après, ouais. S'il y a quelques heureusement quelques humoristes femmes et quelques actrices, mais dans des situations qui sont des gens à peu près ordinaires, dans des vies banales, mais on va mettre le focus dessus, c'est-à-dire bah, comment ça se fait de ne pas réussir à coucher avec des filles, comment ça se fait d'être un type très, très timide, ou d'être un type malchanceux, enfin, c'est ce genre de choses, avec un humour volontairement graveleux, qui parle souvent en dessous de la ceinture, et puis avec aussi enfin, un truc très, très, très particulier, c'est... Ne pas avoir peur de choquer, en fait, dans une espèce de complicité de génération. C'est-à-dire de ne pas avoir peur de se dire, bon, on va faire ce gag un peu pourri, mais on sait que les mecs de 30 ans comme nous, ou les filles de 30 ans ou 40 ans comme nous, vont en rire. Voilà, donc ça, cette complicité un peu triviale, c'est vraiment, à mon avis, et en France aussi. Parce qu'en France, ce sont, on a parlé d'Alain Chabat, il y a évidemment Jamel, il y a la Tour Montparnasse infernale avec Eric et Ramzy. Ce sont des gens qui arrivent du comique, qui arrivent des émissions de télé, qui ont développé un certain style d'humour et qui vont bâtir leur cinéma là-dessus.
Yves Lavandier.
Oui, je suis assez d'accord.
Merci.
Maintenant, moi, quand vous me posez la question des comédies des années 2000, j'ai quelques phares qui sont... Il y a de tout, en fait. C'est le grand écart. En comédie française, je pense à... Des petites, c'est affectueux dans ma bouche, hein. Des petites comédies comme « Fais-moi plaisir », écrit et réalisé par Emmanuel Mouret, qui a un style totalement unique. « La vie d'artiste », Marc Fitoussi, ou « Après vous », Salvadori. Et c'est le grand écart avec « Bienvenue chez les Ch'tis », qui est aussi des années 2000. Donc c'est quand même très varié, je trouve.
Frédéric Segrist.
Pour ce qui est de la comédie américaine, il y a aussi un élément qu'il faut rappeler, c'est « Jackass ». La série de Johnny Knoxville, où on a vraiment une bande de crétins qui se mettent en danger, en perpétuel, et qui n'ont d'autre ambition que de faire n'importe quoi, le plus bêtement possible. Et c'est une émission qui a énormément de succès sur toute une génération, et ça transpire sur le reste de la comédie américaine. C'est-à-dire que mettre en scène des abrutis qui vont être extrêmement dangereux sans s'en rendre compte, ça devient une sorte de règle établie qu'on retrouve chez Jim Carrey, chez Ben Stiller, etc.
Donc c'est un certain art du trash qui s'invite dans les comédies américaines grand public des années 2000, avec du sexe, de la drogue, des vices variés tout genre.
Ça, je dirais que c'est les ingrédients, mais même si ces films peuvent sembler subversifs ou même vulgaires avec une première lecture, c'est des films qui disent énormément de choses sur la société américaine et qui les désacralisent les unes après les autres. La famille est désacralisée, le couple est désacralisé, la sexualité aussi, les communautés, on n'en parle même pas. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec les suites du mouvement MeToo, les suites du mouvement Black Lives Matter, en fait, c'est l'autre versant de la montagne. C'est ce moment où les communautés, quelles qu'elles soient, aux États-Unis j'entends, hein, parce qu'en France on a un autre rapport à ce genre de lutte et de débat, c'est vraiment ce moment où les communautés deviennent un objet d'ironie, de satire. Et je pense que cette comédie américaine-là ressemble, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on pouvait avoir dans des magazines comme nous en France, comme Harakiri, où tout d'un coup tout devient objet à être caricaturé et à la satire.
Guillemette.
Et puis au départ, il y a quasiment un sous-genre dans ces comédies des années 2000 américaines, mais qui est devenu à peu près finalement le genre dominant. C'est la comédie de fumette. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est défoncé quand même. Non, mais c'est vraiment, c'est un principe. Dans ces comédies-là, on fume des joints, on est toujours sous substance quelconque. Ce qui, du coup, rend au minimum maladroit, au maximum complètement inconscient et à se mettre dans des situations dangereuses. Et retrouver un tigre ou un boxeur très célèbre dans sa salle de bain. Enfin, voilà, ça peut aller très très loin parce que ça désacralise complètement les drogues douces. Hein.
Et Guillemette, avez-vous l'impression que la comédie américaine, la comédie hollywoodienne, est en perte de vitesse en 2025 par rapport à ces années 90 et 2000 qui étaient assez, assez riches en talent et...
C'est vrai que après le problème avec la comédie, c'est qu'aussi, vous savez, on instaure des comédies cultes, puis après on a toujours du mal à rendre cultes les comédies qui arrivent la veille. Hein. Donc c'est vrai qu'en ce moment on est un peu déçu par ce qui nous arrive des États-Unis sur grand écran, mais c'est aussi parce que, alors bon, là il y a la primauté des plateformes.
Oui. Netflix, Disney+, voilà. Prime Video, qui ont peut-être tué à petit feu la comédie hollywoodienne dans les salles de cinéma.
Ils se sont servis, en fait, de cet humour un peu trivial, cet humour un peu... Mais, alors, bizarrement, de la provocation, ils en ont fait une espèce d'eau tiède, là, qui coule sans fin sur les plateformes, y compris dans aussi de très bonnes séries. Mais tout ça, c'est un peu dilué. Donc, la grande comédie de ces dernières années... voilà, il faut que je réfléchisse, mais pour le moment, on n'a pas l'objet culte dont on rira encore peut-être dans 20 ans, quoi.
Oui, puis il y avait une dimension dans les comédies américaines des années 2000 assez oppressive pour beaucoup de générations actuelles qui, quand elles regardent ces films, disent « mais non, mais en fait, ça passerait plus ». Alors, ça peut être vrai ou faux, mais n'empêche que c'est ce qui est le discours qui revient le plus souvent. Et aujourd'hui, pour un producteur qui cherche avant tout à faire de l'argent, parce que ces comédies-là, c'est faire de l'argent avec un maximum de rendement, se sont dit « bon, si jamais ça nous attire les foudres de telle ou telle communauté désormais », c'est peut-être moins intéressant de monter une comédie véritablement provoque, qui va être allumée par tout plein de milieux, et plutôt que financer l'humoriste que je voulais faire jouer dans un film et filmer son spectacle de stand-up sur un plateau. Et en fait, sur ces plateformes, on retrouve énormément d'humoristes qui font leur 50 minutes tout seul sur scène, et là ils engagent leurs paroles, c'est le jeu, et en fait ce qui ne pourrait pas être toléré si c'était joué par un personnage, comme c'est incarné par le comédien lui-même qui dit bah voilà ce que j'ai vécu, ça passe mieux. C'est une autre manière de faire de l'humour sur des choses qui peuvent être un peu provocantes, mais quand on parle de soi, ça passe mieux que quand on essaie de jouer un personnage dans lequel d'autres communautés se projettent.
Yves Lavandier.
Oui, quand je pense comédie américaine des années 2000, il y a Little Miss Sunshine vient tout de suite. Et je trouve qu'elle est moins trash et moins fumette que
le grand-père est drogué. Hein.
Oui, complètement.
C'est même l'une des bases, c'est l'un des ressorts comiques du film. Oui, mais il n'y va pas.
Je dis moins, un peu moins. Non, je trouve qu'il y a beaucoup de solidarité vis-à-vis de cette famille dysfonctionnelle. Et de profondeur dans le film.
Je pense juste à une petite... Vous voyez, on est en train de dire que les comédies... Ça, la comédie française, qui a vraiment... tout éclaté, là, ces derniers mois. Bah, c'est un petit truc en plus. Et c'est quoi, en fait? C'est quand même... Alors, évidemment, c'est une comédie bon enfant, mais c'est une comédie qui joue avec quelque chose quand même d'un petit peu compliqué, hein, c'est-à-dire le handicap, mais qui, à la fois, arrive à doser l'humour noir et la tendresse. Eh ben, ça marche. Donc, en fait, quand on fait ces petits pas de côté-là, sans être méprisant, mais on arrive à choper vraiment... En fait, la bienveillance et le rire du plus grand nombre.
Et je suis complètement d'accord. Et j'ajouterais qu'un petit truc en plus a pu courir parce que Nos Jours Heureux avait appris à marcher. Parce qu'il y a vraiment une sorte de
Nos Jours Heureux de
Toledano et
Inagaki. Voilà. Et je trouve vraiment qu'il y a une sorte de deux films qui se répondent. Et Nos Jours Heureux a vraiment été la matrice d'un petit truc en plus.
Allez, dans un instant, une sélection de quelques comédies phares des années 2000. En attendant, il est l'heure de retrouver le plaisir littéraire de Christyla Pelédoine. Alors, Christyla, vous avez choisi La conquête de l'espace de Muriel Boselli et c'est publié aux toutes nouvelles éditions La Tribu.
Et oui, après un premier coup d'éclat avec l'affaire de la rue Transnonain dont on avait parlé, de Jérôme, ça y est, son nom m'échappe, mais ça reviendra. Les nouvelles éditions, menées tambour battant par Julia Pavlovitch, continuent sur leur lancée et publient un deuxième, alors c'est pas un roman, c'est un récit, mais qui est, je ne sais pas comment vous dire, c'est une espèce de petite... pépite, c'est un petit bijou, c'est absolument beau, poétique et aussi plein d'encouragement pour tous les gens qui se débattent avec des difficultés ou qui ont du mal à trouver qui ils sont ou ce qu'ils auraient envie de faire. Alors, c'est tout simple, hein, Muriel Boselli, avec son mari, il décide de chercher une petite maison à la campagne pour pouvoir y aller les vacances le week-end, et il se dirige vers la Bourgogne rurale, non pas la Bourgogne chic et riche des grands vins, mais la Bourgogne de Saint-Sauveur-en-Puisaye et de l'agriculture. Saint-Sauveur-en-Puisaye, ça vous dit quelque chose. Saint-Sauveur-en-Puisaye, c'est le village natal de Colette. Voilà. Et Ils arrivent donc là et ils tombent sur une petite maison, justement, qui se trouve être la maison d'une vieille dame et tout est resté absolument en l'état. C'est-à-dire qu'il y a tout, les petites cuillères, les draps, les vêtements, il y a tout. Donc ils achètent la petite maison et pour elle, pour cette jeune femme, qui est pleine de... Elle a envie d'écrire, elle a envie de faire des choses, mais elle n'y arrive pas. Et il se trouve que petit à petit, en étant dans cette maison et en explorant un peu les alentours, elle parvient au fur et à mesure, et donc c'est ce qu'elle raconte, à dénouer ce qui l'empêchait. Ce qui l'empêchait, c'était ses relations avec sa mère, très compliquées, ses relations avec sa grand-mère anglaise, très pleine d'originalité. Et Elle s'ouvre et elle qui est terrorisée par un certain nombre de choses, dont en particulier se promener seule, ce qui est quand même une chose assez commune à toutes les femmes, elle parvient, en étant dans ce village et en étant en connexion inconsciente ou consciente par moments avec Colette, avec l'écriture, elle parvient à de nouveau se mettre au travail, se lancer dans ce livre qu'elle avait envie d'écrire et à casser ses empêchements, dont en particulier cette histoire de marcher seule dans la campagne. Et ça, c'est vraiment... Il y a un moment, un passage qui est une métaphore de ces empêchements qu'elle a. Et si je peux juste vous lire un tout petit passage, elle est en train de marcher, elle décide de marcher seule. Et très courageuse, elle y va. Et sur la route, elle décide de suivre la route parce qu'il y aura sans doute plus de monde, mais il se trouve que oui, elle marche seule et puis elle entend des pas derrière elle. Elle entend des pas qui s'approchent, mais elle essaye de maîtriser cette peur. Mais les pas s'approchent de plus en plus et il se trouve que, oui, il y a bien quelqu'un derrière. Alors elle dit « Je dois me calmer ». Il n'y a pas lieu de paniquer. Afin de m'assurer qu'il est simplement pressé et qu'il ne veut aucun mal, je décide de ralentir le pas. L'homme épouvantail est désormais juste derrière moi. Pourtant, il ne me double pas. Il s'est calé sur ma cadence. Je me maudis de ne pas avoir chaussé une paire de baskets pour courir le plus vite possible. Et ça, c'est vraiment la métaphore de absolument tout son parcours. C'est une écriture qui est poétique, qui est pleine d'interrogations, de délicatesse, et sur les liens, et sur la volonté d'écrire. Je trouve que c'est un livre à mettre entre toutes les mains, qu'on ait envie d'écrire ou qu'on ait envie de créer.
La conquête de l'espace de Muriel Boselli, c'est publié aux éditions La Tribu. Tout à l'heure, vous citiez l'affaire de la rue Transnonain et c'est signé Jérôme Chantreau.
Oui, là, franchement, c'est
chez le même éditeur. 10h23, l'heure de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino.
Cher Ali, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Putain, je commençais toutes les chroniques comme ça avant. J'ai l'impression de revenir à l'enfance. Alors, donc, cher Ali, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, l'une des choses qui m'émeut le plus dans la vie, me fait fondre, me donne immédiatement le sourire, c'est quand je croise une petite fille avec des couettes.
C'est vrai.
Ces deux petits trucs-là qui partent quasiment à l'horizontale de chaque côté du visage d'une enfant, qui tressautent quand elle court maladroitement, qui rebondissent en même temps qu'elle rit. Il y a tout le charme de l'enfance dans ces deux petites touffes de cheveux retenues par des élastiques. Et bien sûr, Pete Doctor, le génial réalisateur de chez Pixar, il le savait quand il a créé Boo. Le petit Boo de Fillette, de Monstres et Compagnie en 2001. Alors imaginez un monde de l'autre côté de nos peurs d'enfance. Le monde des monstres où le cri d'enfant est l'unique source d'énergie. Alors, ils sortent des placards la nuit dans les chambres d'enfants pour les faire hurler de trouille. Mais attention, si les enfants craignent les monstres, eux aussi, ont une trouille bleue des gosses. Pour eux, le bambin est un individu dangereux. Il ne faut surtout pas avoir le moindre contact physique avec lui. Une simple chaussette taille 25 se retrouve collée à leur fourrure ou à leur peau pleine de pustules. Et hop, c'est la décontamination d'urgence. Mais un soir... Bah, c'est pas une chaussette hein, que Sully, véritable terreur d'élite, laisse pénétrer dans l'usine à cris des monstres. C'est une petite fille entière. Horreur et stupéfaction. Que faire de ce petit être qui gambade partout, qui babille, qui n'a même pas peur? En plus, ce truc lui tend les bras et l'appelle « Minou ». Bon, et voilà. Avec simplement deux couettes qui sautillent, de tendres onomatopées et des petits yeux écarquillés, Pixar réinvente le discours contre les préjugés.
Et en fait, Boo, c'est l'autre, c'est l'étranger.
Oui, Ali. C'est ça qui est génial. Monstres et compagnie, c'est une histoire de portes. Toutes ces portes qu'il ne faut pas craindre de franchir pour aller à la découverte de l'autre, même si on pense que ces chaussettes sont radioactives. Mais attention, hein, Bou a beau avoir environ 3 ans, elle sait très bien ce qui donne vraiment envie de pleurer. Au départ, c'est d'un autre monstre qu'elle a peur, une saleté de caméléon et en plus comploteur. Donc l'enfer, quoi. Sully, lui, elle le voit comme une grosse peluche toute douce. Jusqu'à ce moment où son ami est obligé de faire vraiment le monstre. Il rugit, le visage déformé par la violence, et là, Bou, elle éclate en sanglots, terrorisée. Rarement film a montré le traumatisme pur et simple de voir surgir la sauvagerie, la férocité, chez un proche dans lequel on a confiance. Mais parce que nous sommes chez Pixar, Sully va immédiatement réaliser à quel point faire peur à ceux qu'on aime est inadmissible. Surtout, il va comprendre, grâce à ma merveilleuse Bou, que le cri est une piètre valeur face au rire. Un petit bruit cristallin sorti de la bouche en cœur d'un petit machin à couette, c'est du 100 000 volts. Le rire d'un enfant, voilà l'énergie première qui peut alimenter tout un monde.
Ah, ça, c'est joli. Mmh. Frédéric Segrist.
Oui, et Monstres et compagnie, c'est aussi un des meilleurs films sur la culture d'entreprise et sur la nécessité de revoir sa copie quand on veut changer de matière première, sortir des hydrocarbures et trouver autre chose. Ils ont réussi à trouver un plan B via un film pour enfants.
Yves Lavandier.
Le rire d'un enfant, c'est le plus beau son du monde.
Ouais. Ça. On confirme. Et vous avez sous les yeux le sosie officiel de Bou,
ma nièce
Isée, qui a 4 ans et qui est son sosie.
Voilà, et donc c'est pas juste en pleine chronique de me balancer une petite fille à quoi délicieux sous le nez, ça m'a fait perdre mes moyens.
C'était fait exprès, ma chère Guimette. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de l'Ami du Vendredi de Guimette Odissino sur l'appli Radio France. Dans quelques instants, une sélection de quelques comédies des années 2000. Ce sera juste après avoir écouté Kélis qui interprète Trick Me, une chanson de 2003, 10h27 sur France Inter.
This is it. Twice.
interpréter Treat Me.
Grand bien vous fasse.
Donc, vous conseillez aux gens d'aller le voir quand même.
Bah, c'est-à-dire, c'est où? C'est aux trois quartiers, Saint-Germain.
Trois quartiers, Saint-Germain.
Oh là là. Rien que pour la directrice de la salle, Madame Vicentin, qui est une personne délicieuse. Quel bonheur, quel accueil. En plus, elle a tout redécoré, style art déco. Rien que pour la salle, il faut y aller.
Mais rien que pour la salle.
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse, week-end et quelques comédies des années 2000 avec Yves Lavandier, Guillemette Odissino et Frédéric Sigrist. Et on commence avec Borat de Larry Charles avec Sacha Baron Cohen, un film sorti en 2006. Et c'est votre choix, Frédéric Sigrist. On écoute un extrait.
Lorsque j'ai acheté ma femme, au départ, elle faisait bonne cuisine. Sa vagine marche bien, elle est forte au labourage. Mais au bout de 3 années de mariage, quand elle a eu 15 ans, alors elle devient fragile et sa voix devient plus grave. Borat, Borat. Et alors elle a reçu poil sur le sein. Et sa vagine, elle était large comme la manche du magicien.
Ça alors.
Comment je suis sûr que ça arrive pas comme ça avec la voiture?
Chevrolet vous le garantit avec la garantie.
Voilà, Frédéric Sigrist, vous avez choisi Borat.
Mais oui. Et figurez-vous que quand j'ai vu Borat en salle, j'ai détesté. J'étais, mais vraiment, en plus, j'avais un petit côté pudibon. Et donc là, vraiment, c'est tous mes voyants étaient au rouge en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce film? C'est honteux de faire ça, etc. » Et en fait, plus j'ai avancé dans ma carrière d'humoriste, et plus je me suis rendu compte du talent et de l'audace de Sacha Baron Cohen. Parce que faire ça dans une comédie où tout est écrit, c'est une chose. Le faire face à des vrais conservateurs, réussir à fâcher quand on est soi-même juif, la communauté juive, le Kazakhstan, les conservateurs américains, tout ça dans le même film, faire une leçon sur ce qu'est une dictature face à des sénateurs américains en leur faisant comprendre que globalement leur pays est une dictature et sans aucun filtre, la scène où avec son producteur ils sont dans un bed and breakfast tenu par une famille juive et comment ils ont grandi dans un monde où on leur a vendu de l'antisémitisme, ils sont terrorisés et ils s'enfuient de chez ces gens-là parce qu'ils disent ils vont nous manger ou ce genre de choses. Et aux États-Unis, il y a eu une réaction épidermique. Ils ont dit mais ce film est antisémite, alors que Larry Charles et Sacha Baron Cohen sont juifs. Il y a ce que je trouve merveilleux chez les humoristes, même quand ils choquent, cette idée que sur scène, dans un écrin artistique, on peut dire et faire tout ce qu'on veut et dire n'importe quoi. Et je trouve que c'est salutaire, même si ça choque, qu'il y ait des gens qui disent c'est pour rire, je vais aller jusqu'au bout et moi désormais je vendrai ma famille pour pouvoir faire des... D'ailleurs je le fais d'ailleurs. Voilà. Faire des vannes de cette manière-là parce que c'est pas si grave,
Guillemette.
En fait, c'est drôle parce que j'ai exactement la même histoire avec Borat. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai détesté la première fois.
J'avais adoré à sa sortie.
Voilà. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que ce type se permet? C'est incroyable, enfin, c'est scandaleux et tout. Et c'est justement après de se dire, mais c'est extraordinaire qu'il se le permette, justement. Et puis, bon, il y a vraiment des moments, bon, à condition d'accepter ce genre d'humour, où c'est quand même... Enfin, mais on tombe du fauteuil tellement c'est drôle. Hein. Ah, non, vraiment génial.
Yves Lavandier.
Oui, Borat illustre un aspect important de la comédie, c'est que la comédie, c'est pas nécessairement une fabrication, une fiction. Ça existe à l'état naturel. Ça existe dans la vie, de façon involontaire. Et à mon avis, c'est même la moitié de la vie. Et parce que Borat s'est fondé sur le principe un peu de la caméra cachée, peu l'imposture, façon Jean-Yves Lafesse et d'autres. Et... il y a un autre film, alors on ne peut pas considérer ça comme une comédie, mais des années 2000, qui s'appelle Bowling for Columbine, qui est un documentaire.
Michael Moore.
Oui. Michael Moore, oui, avec des éléments de comédie. Au début de Bowling for Columbine, il va s'inscrire dans une banque, ouvrir un compte dans une banque du Michigan, je crois, et on lui offre une carabine. Parce que c'est quand on ouvre un compte dans cette banque, on a droit à une carabine en état de marche.
Et ce n'est pas de la fiction.
C'est pas de la fiction, exactement. Et il a cette remarque. Vous trouvez pas ça un peu dangereux de distribuer les carabines en état de marche dans une banque? Donc il souligne l'aspect comique de la vie.
Céline Curtas.
Oui, non, moi j'étais d'accord avec tout ce qui a été dit sur Borat, évidemment. Mais voilà, moi j'ai pas aimé, mais par contre j'aime l'idée qu'il existe en fait. C'est juste ça. Par contre, son string vert, on s'en souvient tous. Ah, ça m'a complètement traumatisé.
Oui, ça n'existe pas dans la vraie vie, j'espère.
Si.
Allô? Je peux pas trop vous parler là maintenant.
C'était qui ?
C'était une femme qui...
Ah, une femme. Tu la connais d'où, mon copain ?
C'est une femme que j'ai rencontrée, en fait.
Excuse-moi, mais j'ai l'impression que mes questions t'embarrassent.
Pas du tout. J'ai résisté.
Je suis pressée, mais...
C'est son initiative à elle.
Tenez.
C'est quand même pas de ma faute si je me fais violer.
J'ai bien réfléchi. Pour que notre couple aujourd'hui résiste, il faut être... moderne.
Mais je vais quand même pas aller coucher avec cette fille pour te faire plaisir.
Écoute, tu vois bien que je fais des efforts. Tu pourras en faire un peu de ton côté, quand même.
À l'opposé de Borat, Fais-moi plaisir d'Emmanuel Mouret, sorti en 2009. C'est l'une de vos comédies préférées des années 2000, Yves Lavandier.
Oui, parce que on n'en parle pas beaucoup. C'est une petite comédie qui est probablement passée un peu inaperçue. Je citais La vie d'artiste tout à l'heure, c'est un peu la même chose.
De Marquitte aussi.
Mouret joue son personnage à l'époque. Il en a fait plusieurs comme ça. Il jouait un personnage assez unique, un peu lunaire, qui cherche le grand amour, qui peut faire penser à Jean-Pierre Léo, à Woody Allen. Il joue d'ailleurs pas très bien, en fait. Il me fait penser à Truffaut par moments. Mais c'est charmant. Et puis, il y a des moments très, très drôles. Dans Fais-moi plaisir, il y a une scène de très belle illustration d'un couple comique universel et intemporel, qui est le couple Auguste Clown Blanc. Le principe, alors on le trouve dans le roman, on le trouve avec Don Quichotte et Sancho Panza, on le trouve au théâtre avec Don Juan Sgagnarelle, on le trouve Laurel et Hardy bien sûr, Pignon et Milan, Brochant, Lucas, enfin bon, chez Weber. Et là, c'est Mouret qui rencontre le président de la République française, joué par Jacques Weber, et il lui fait un tour de magie qu'il foire. Et nous, on sait, parce que ça a été bien préparé avant, qu'il est en train de le foirer. Et le regard de Jacques Weber, le regard de clown blanc de Jacques Weber sur la connerie du personnage de Mouret est absolument savoureux et renforce le gag, en fait. Il y a deux gags dans le couple Auguste clown blanc. Il y a la connerie de l'Auguste et il y a le regard consterné du clown blanc.
Guy Métodicino.
Ben oui, je suis tout à fait d'accord. Emmanuel Mouret, c'est la part marivaudage, ouais. Délicieux marivaudage, ouais. De la comédie française, hein, qui quand même reste un principe vraiment éternel. Dans la même famille un peu, mais plus qui tire vers Lubitsch et compagnie, que justement Pierre Salvadori, vous parliez de Après vous tout à l'heure, où il y a aussi un clown blanc et un Auguste, où il y a José Garcia qui veut tout le temps se suicider, avec Daniel Auteuil qui ouvre des yeux écarquillés face aux conneries de l'autre, et la délicieuse Sandrine Kiberlin plantée au milieu en mode marivaudage, justement. Donc, toute cette comédie d'auteur française, qui est vraiment à la fois une comédie de situation et qui joue avec élégance des sentiments, ça, c'est pérenne, quand même.
Vous avez choisi Good Morning England de Richard Curtis, sorti en 2009. Et là, on vient d'écouter les Kings. Hein.
Oui, parce qu'il y a les Kings dedans, il y a tout dedans, de toute façon. Il y a toute la BO du monde dans Good Morning England. Alors, d'abord, c'est Richard Curtis. Donc, Richard Curtis, je vous rappelle vaguement, c'est 4 mariages et un enterrement. C'est toute la grande comédie romantique. Et Good Morning England, qu'on oublie tout le temps dans sa filmographie, qui est un régal. Donc en gros, c'est dans les années 60, le rock commence à poindre, sauf évidemment sur la BBC, où tout le monde trouve ça absolument scandaleux. Donc sur la BBC, il doit y avoir 30 minutes de rock par jour, et encore au max. Et évidemment, les radios pirates se mettent à exister. Et là, c'est l'histoire un peu inventée d'une radio pirate, qui a existé, oui, mais qui elle aussi était un peu de fiction. Oui, enfin bon. Et qui pour vraiment qu'on lui foute la paix, donc tous ces disques jockeys se retrouvent sur un bateau pour pouvoir diffuser exactement ce qu'ils veulent et que personne puisse les empêcher de diffuser vraiment du gros rock sale et toute la musique qu'ils aiment. Et en plus, il y aura entre eux un concours de c'est qui le meilleur disque jockey et tout. Mais d'une drôlerie, c'est un espèce de drôle de mélange d'humour américain, parce qu'il y a quand même des acteurs américains à l'intérieur, et d'humour britannique. Et puis de toute façon, il y a Bill Nighy, et donc s'il y a Bill Nighy, c'est un grand film comique, point.
Good Morning England de Richard Curtis. Frédéric Segrist, un titre de film qui ne nous concerne pas vraiment, vous et moi, Rien que pour vos cheveux, de Dennis Degan. C'est sorti en 2008 avec Adam Sandler, Emmanuel Chiriki et John Turturro. Pourquoi avoir choisi Rien que pour vos cheveux ?
Parce qu'en fait, je m'étais fié au titre, quand je suis tombé sur un film qui s'appelait Rien que pour vos cheveux, je me suis dit, mais ça sent le nanar. Et en plus, c'était un film avec Adam Sandler qui se traînait quand même une sacrée batterie de films vraiment médiocres, etc. Et il incarne Zohan, un agent secret du Mossad qui recherche un terroriste arabe joué par Hank Azaria qui s'appelle Le Fantôme. Et ce film est à mourir de rire, parce qu'en fait, le rêve de cet agent secret extrêmement compétent, faut le voir dans les premières minutes du film, rattraper un jet ski en faisant la nage papillon, en sortant de l'eau comme ça, juste à la force de ses muscles, rêve de devenir coiffeur. Et il va aux États-Unis et il tombe amoureux d'une gérante palestinienne d'un salon de coiffure. Et le fantôme, ce terrible terroriste qui lui aussi a émigré aux États-Unis, reconnaît son terrible ennemi, agent du Mossad, le terrible Zohan. Et c'est bête, mais en même temps extrêmement drôle sur ce que ça dit sur le terrorisme. Ça arrive à rendre drôle le conflit israélo-palestinien. Franchement, voilà, je pense que c'est un film comme ça, un ovni, qui je l'ai vu et je me suis dit, ah, je l'oublierai jamais.
Rien que pour vos cheveux. Yves Lavandier, on l'a cité, un réalisateur de comédie française très intéressant, Marc Fitoussi. En 2007, il réalise donc La vie d'artiste avec Sandrine Kiberlin, Denis Podalydès, Oratica et Les Regrets. Valérie Benguigui et Émilie Dequesne.
Oui, c'est l'histoire de trois individus, donc joués par Kiberlin, Dequesne et Podalydès, qui chacun veulent devenir artiste. L'un romancier, l'autre, je ne sais plus pour Sandrine Kiberlin, mais Émilie Dequesne, elle veut devenir chanteuse. Et c'est assez remarquable parce que c'est dans l'écriture, c'est presque un film à sketch, puisqu'ils ne se croisent quasiment jamais. Enfin, ils se croisent une fois, mais c'est assez sans se reconnaître. Donc on suit l'un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, puis l'autre, etc. Mais il y a une unité incroyable, parce qu'ils ont tous les trois le même objectif, qui est de réussir leur vie d'artiste, et ils en prennent plein la tronche. De façon drôle en plus, parce qu'il y a échec comique et échec sérieux. Et là, c'est plutôt comique. Et il y a en particulier une scène encore de Auguste Clown Blanc quand la regrettée Émilie, je crois que son personnage s'appelle Clara.
Émilie Dequesne,
croit avoir trouvé le Graal, un producteur de musique qui est joué par Jean-Pierre Calfon. Et la scène où elle se rend compte que c'est un ringard fini, le regard qu'elle lance sur Jean-Pierre Calfon, c'est à hurler de rire.
Guillemette.
Oui, c'est un très très joli film de Marc Fitoussi dont on connaît. C'est son premier, dont on a apprécié les autres films. Mais c'est vrai que ce premier est un peu oublié et c'est une pure merveille. Et Sandrine Kiberlin, elle, en fait, elle travaille dans le milieu du manga, mais ce n'est qu'une voix et elle aimerait bien devenir un visage. C'est vraiment très joli sur la quête de célébrité.
Un mot sur l'une de vos comédies cultes, La Tour Montparnasse Infernale, Guillemette Odissino de Charles Némès, avec évidemment le duo Éric Judor et Ramzi Bedia, sorti en 2000 ans.
Alors ça, c'est de l'humour de 3 ans et demi. Je pense que Bou pourrait comprendre tous les gags. C'est caca-boudin, c'est absolument mais d'une drôlerie. C'est vraiment l'humour infantile assumé, mais qui est irrésistible. C'est certains gags, ce n'est... On peut sortir, avoir fait 12 ans d'études ou être le plus intello de la Terre. On ne peut pas ne pas rire certains gags. Par exemple, ce gag cultissime, mais vraiment, où Éric Judor, en plus très amoureux de Marina Foïs, donc lui parle à travers une vitre. Et elle le trouve complètement débile. Et elle, justement, elle lui dit « Tu serais pas un petit peu con ?» Et lui, il l'entend pas. Et avec un air ahuri, il dit « Un petit breton. Ah mais je suis pas un petit breton. Ça c'est devenu dans ma famille. Chaque fois que quelqu'un fait une connerie, on le traite de petit breton. Vous voyez, pardon pour les bretons, ça n'a rien à voir. Hein.
Vous allez recevoir du courrier, mais ma non. chère Guillemette. Frédéric Ségris.
Non mais c'est grandiose parce qu'en fait c'est un film qui explique et qui illustre la vis comica. C'est-à-dire que Éric et Ramzy sont tellement drôles que quand on les place dans Piège de cristal,
oui c'est ça. C'est
tout d'un coup ils en font quelque chose de complètement nouveau et de drôle et ça pour le coup c'est vraiment l'apanage des années 2000. C'est-à-dire ces comiques, ces humoristes qui transformaient le film dans lequel ils étaient plongés.
Christina. Il y a quand même les dialogues qui sont absolument dingos. Et il y en a un, enfin, il y a une réplique de Ramzy qui est aussi culte quand il explique qu'il va aller prendre ses cours de force pure. Alors moi, ça, c'est un truc qui m'enchante, les cours de force pure.
Tiens, ça, c'est pour vous, Thibault.
Vous voyez l'automobile derrière moi?
Oui.
Ça fait un petit moment que je l'observe.
Eh bien?
Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
Thibaut, vous êtes content là, hein, OSS 117.
Ah, ouais, ouais. Je l'attendais pour tout dire.
Ouais.
Non, voilà, bah, OSS 117, le carnet d'espions, Michel Hazanavicius. C'est là aussi, je ne sais pas très bien comment analyser le plaisir qu'il y a à regarder ce film. Parce qu'en un sens, ça fait référence à beaucoup de films de un peu série B des années 60-70, d'espionnage, etc. Mais que, en fait, j'en ai vu très peu. Donc, c'est pas parce que je vois la différence, etc. C'est parce qu'il y a un rythme, une écriture, aussi un sourire niais, un rire niais de Jean Dujardin, qui est quand même assez irrésistible. Et il y a aussi une certaine manière, et ça c'est assez plaisant aussi, de dédramatiser la grande histoire. Il s'agit quand même de poursuivre des criminels nazis. Et donc voilà, tout ça est réjouissant.
Oh ben, rien que ça, il arrive à Rio, dans une ambassade, et il demande tout bêtement « Mais vous avez un fichier de l'association des anciens nazis ?» Bon, rien que ça, vous voyez, moi je prends mes ever toute ma vie.
Et Frédéric Segrist. Ce qui est intéressant, c'est que Michel Hazanavicius n'a pas voulu faire le troisième parce qu'en fait, il ne se sentait pas les épaules de reprendre le personnage. Parce que ce qui était très drôle avec le 1 et le 2 a été rattrapé par le réel. C'est-à-dire que des OSS 117, il y en a plein dans les milieux politiques aujourd'hui qui parlent comme lui, mais très sérieusement.
Allez, il est l'heure de retrouver à 10h47 la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne, jamais.
Alors Thibaut, ce matin vous revenez sur la journée d'hier, 1er mai, fête du travail.
Oui, alors avec un peu moins d'humour que les comédies dont on a parlé, mais effectivement au premier abord, cette fête du travail qui passe par un jour férié, donc un jour où justement on ne travaille pas, c'est un peu paradoxal, et puis une journée pour fêter le travail alors que beaucoup passent les 364 autres jours de l'année à se plaindre de leur travail, à s'inquiéter pour la perte de leur travail ou à souffrir au travail, c'est toujours donc aussi paradoxal. Qu'y a-t-il donc de si merveilleux dans le travail qui mérite qu'on lui consacre une journée de fête? Alors l'étymologie elle-même n'est pas très rassurante, hein, je parle sous le contrôle de la linguiste, parce qu'au pire, travail, ça viendrait de tripalium, un mot qui désigne une herse de bois utilisée comme instrument de torture, et au mieux, ça viendrait de traps, qui signifie poutre, et qui a donné en français travé ou entravé. Donc il y a un peu moins de souffrance dans cette deuxième hypothèse, mais il y a toujours du poids et de la contrainte. Le travail s'impose d'abord à nous comme une nécessité matérielle de produire nos propres conditions d'existence pour satisfaire nos besoins, et puis une nécessité sociale de participer aux échanges sociaux qui structurent la société. Dans les deux cas, il y a de la soumission, hein, la soumission à l'ordre de l'activité productive. Si on veut faire pousser du blé, construire une maison ou vendre des vêtements, eh bien on ne peut pas faire comme on veut. Il faut obéir à une certaine manière de faire et à des règles. Et puis il y a aussi une soumission à l'ordre des conditions économiques de production. Dans le système capitaliste qui est le nôtre, par exemple, quand je travaille, je ne perçois qu'une petite partie, une toute petite partie de la richesse que je produis.
Mais le 1er mai, Thibault, ce n'est pas tant la fête du travail que la fête des travailleurs.
Mais oui, Ali, vous avez raison. Comme toujours, l'expression de fête du travail.
Il y en a qui veulent garder son travail. Hein.
Exactement. N'est qu'un raccourci de la dénomination historique de cette journée, la Journée internationale des travailleurs, journée de grève générale décidée par la Deuxième internationale en 1889. Et cette journée, au départ, c'est une journée de lutte pour les droits des travailleurs et notamment pour limiter la journée de travail à 8 heures. Parce qu'au fond, ce n'est pas le travail en lui-même qui est aliénant, ou du moins l'aliénation qu'il impose n'est pas toujours asservissante. Comme le remarque le philosophe allemand Hegel, dans son gros livre au titre qui se la raconte un peu, La phénoménologie de l'esprit, le travail réfrène le désir. Il nous forme, il nous transforme. En travaillant, en acceptant de se soumettre à l'ordre de l'activité productive, l'homme développe les facultés qui dormaient en lui et dont il a besoin pour surmonter donc les contraintes qui s'imposent à lui dans le travail. En clair, ça veut dire le travail développe la volonté, l'ingéniosité, la patience, l'endurance, la rigueur. Toute qualité qui manifeste un progrès par rapport à l'activité naturelle et souvent capricieuse de la volonté naturelle, que l'on peut par exemple retrouver chez le jeune enfant. C'est en ce sens que le travail nous humanise et nous libère. Alors pourquoi le trouvons-nous si pénible parfois? Eh bien cette fois, on trouve des éléments de réponse chez le philosophe Karl Marx. Cette fois, Marx reprend la pensée de Hegel pour montrer que ce n'est pas le travail en lui-même qui est mauvais, mais les conditions économiques, sociales, juridiques qui pervertissent cette activité essentielle. C'est donc tout le sens de cette fête du travail. C'est pas une journée pour faire sa fête au travail et réclamer sa disparition, mais c'est une journée pour réclamer et défendre des conditions de travail plus justes, permettant justement donc de tirer le meilleur du travail et pour que par notre travail, nous puissions être reconnus et gagner en liberté. Alors cette dignité-là du travail, elle mérite bien une journée de pause pour que nous puissions y réfléchir et la défendre tout le reste de l'année.
Toutes les chroniques philo de Thibaut de Saint-Maurice à podcaster sur l'appli Radio France et à partager sur les réseaux sociaux. Après les nourritures intellectuelles et nourritures bien terrestres de Céline Puertas, rédactrice en chef du magazine Elle à table. Alors, Céline Puertas, on peut regarder l'une de vos comédies préférées, 40 ans toujours puceau,
oui.
Et déguster tranquillement une panna cotta, pêche et romarin.
Tout à fait. Le risque, c'est quand même d'avaler de travers en rigolant un peu trop, mais oui, on peut carrément le faire. Cette recette de panna cotta, en plus, on la prépare à l'avance, donc c'est parfait. À la pêche et au romarin, pour la réaliser, on commence par faire tremper 8 grammes de gélatine dans un peu d'eau. Mmh. Dans une poêle, on fait revenir à feu vif 3 pêches épluchées et coupées en petits cubes pendant 3 minutes. Évidemment, si on n'a pas de pêche fraîche, on a des pêches au sirop pour dépanner au fond du placard. Et on ajoute un brin de romarin. Ensuite, on fait chauffer dans une casserole 350 grammes de crème fraîche liquide. Mmh. Et là, vous dites, c'est beaucoup. Bah ouais, les gars, en fait, la panna cotta, c'est que de la crème fraîche. Voilà, on peut le dire. Mais c'est pour ça que c'est bon. On a mis des sucres pour faire un peu de fruits, pardon, pour faire illusion. J'ai oublié le sucre.
Ouais, les gars, alors là, j'adore.
Ouais, les gars,
ouais, les gars, ouais.
Regardez un peu étonné. Ouais, les gars, on est comme ça. 80 grammes de sucre et un brin de romarin. Qu'on laisse infuser 5 minutes, pas plus, parce qu'après, ça peut être un peu costaud.
Le romarin, c'est pour la touche phytothérapie, voilà, c'est ça?
Bien sûr, évidemment, c'est pour les cigales, surtout la Provence. Une fois que notre mélange frémit, on ajoute hors du feu la gélatine, la fameuse, et les morceaux de pêche qu'on a fait revenir tout à l'heure, on mélange le tout, puis on verse dans 4 petits contenants et on réserve au frais. Au moment de servir, on ajoute quelques morceaux de pêche crue et on n'a plus qu'à déguster. Et évidemment, vous me connaissez, je suis trop bavarde, comme cette recette était super courte aujourd'hui, je vous propose un petit quiz pour terminer. Savez-vous dans quelle région d'Italie a été inventée la panna cotta? Parce que Thibaut. Ça raconte avec ses comédies françaises, mais hein, sur la bouffe, on
dit
quoi?
Ah, c'est à moi qu'on pose la question.
Oui. Entre Milan et Naples.
Oh, il a triché, il a lu sur les fiches.
Il a triché, il l'a bondi.
Non, c'est vrai, bon, très bien, bravo. Bravo, franchement, un point. Le parmesan, il vient d'où le parmesan?
Pareil, entre Milan et Naples.
Il vient pas de Parme.
Ah bon, les coups, bah oui.
Il vient d'Émilie-Romagne, figurez-vous, voyez où est cette région, un peu au nord de l'Italie, aussi la Toscane. Allez, j'en ai une dernière, mais vraiment, elle est facile celle-là. Pour Ali, du coup. La sauce bolognaise.
Bah, Bologne.
Voilà, bravo, voilà. Bravo.
Alors lui, bravo.
Bah d'accord.
Elle aussi, elle veut garder
ça.
Le but, c'était facile. Le but, c'était pas évidemment de vous humilier sur vos savoirs gastronomiques. C'est juste de vous dire que si vous avez envie d'être incollable sur la gastronomie italienne, procurez-vous le nouveau numéro d'Elle à table, spécial Italie, qui sera en kiosque le 7 mai.
Le 7 mai. Merci beaucoup, Céline Puertas. Tout de suite, la chronique avec la langue de Julie Neveu.
L'aigle va fondre sur la vieille buse.
France Inter.
C'est chouette comme métaphore, non?
Grand bien vous fasse.
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Enfin, pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
Alors Julie, vous revenez ce matin sur la phrase choc de Nicolas Demorand dans son récit Intérieure Nuit, que j'ai moi-même décrit à ce micro comme un retournement de stigmate.
Oui, je suis un malade mental, c'est cru, c'est violent à dire et peut-être à entendre, mais je ne veux plus le cacher, ni me cacher.
C'est violent à dire et peut-être à entendre, oui, mais pourquoi? D'où sort la violence de la phrase? Pourquoi elle choque plus qu'une formule du genre « je suis bipolaire » ? Bipolaire, c'est un terme médical, un diagnostic, un mot de médecin de l'hôpital Sainte-Anne. C'est la parole d'un expert qu'on cite à propos de soi. Elle n'intègre pas la vie vécue. Le regard des autres sur soi, son propre regard sur soi, filtré par celui des autres. Les regards, mais aussi surtout les émotions. Ces émotions sociales, puissantes, qui divisent et dressent des murs, la peur et la honte. En fait, la violence de « je suis un malade mental », c'est une violence boomerang. Ce n'est pas Nicolas Demorand qui nous l'envoie, c'est nous qui l'envoyons et il nous la retourne. Il retourne le stigmate. Le stigmate, au départ, c'est ce qui est marqué sur la peau, souvent au fer rouge. Et le stigmatisé se met à montrer la marque sur sa peau. C'est une stratégie ancienne de lutte contre la stigmatisation, un geste politique, souvent militant, qui passe d'abord par le langage. Comme lorsqu'Aimé Césaire reprend l'insulte esclavagiste et raciste, nègre, et en fait la négritude, ou ce collectif bordelais aujourd'hui qui s'est appelé la trans-pédéguine. On vous traite d'un mot qui vous exclut de la norme pour blesser, pour isoler, et vous faites vôtre la blessure. Vous la resignifiez, dit la philosophe Judith Butler, puis la linguiste Marianne Pavot. Resignifier, donner un nouveau sens, faire imploser la charge négative d'un mot. En resignifiant, on peut viser la neutralité, la banalité, et c'est déjà une révolution, comme le dit Nicolas Demorand. On peut aussi viser l'inversion, le négatif en positif, la honte qui devient fierté. C'est la Gay Pride, la marche des fiertés LGBTQIA+. Q pour queer, qui au départ était aussi une insulte, louche, sale, le sale qu'il y a dans salope. Mais aussi la Mad Pride, la marche de la folie, et puis aussi donc la marche des salopes, avec sur les corps et les pancartes des slogans comme « Je suis une salope mais pas la tienne », salope en anglais « bitch » ou plutôt « bitch » pour exagérer « bitch ». I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Je suis la reine des bitches, scande la rappeuse Nicki Minaj, dont un autre titre est Freaky, Freaky Girl, fille monstrueuse de Freak Show, ces spectacles si populaires au 19e aux États-Unis, où l'on paye pour s'exciter à la vue des femmes à barbe et des Elephant Man. Sauf qu'ici, le show se fait en plein air. On choisit de porter, d'afficher, de performer le stigmate. Et la performance montre que tout ça, c'est de la construction culturelle, des projections de fantasmes. Alors on marche joyeusement dans la rue, on fait partie du paysage citoyen. Hier, je rentrais chez moi en pensant à cette chronique et là, hop, en lettres collées sur le mur jaune, sous mes yeux, l'inscription « Moins de PDG, plus de gros PD ». Bref, on sort du placard, du trou, où les fantasmes des autres nous enterrent vivants. On met toute une société face à ses impensés. Dire « je suis une salope, je suis un malade mental », c'est en fait reprendre la parole sur soi, reprendre le pouvoir sur ce qu'on dit de soi, se redéfinir, ne pas laisser les autres se charger de notre identité, redevenir donc son propre auteur, comme renaître à soi. Si en plus, comme Nicolas Demorand, on est déjà une figure publique d'autorité, de prestige, de pouvoir, c'est reverser cette image positive vers le stigmate. Tendre à la société une bombe linguistique, mais dégoupiller les armes déposées à plat. Un geste de paix tendu vers les autres pour tenter de vivre comme et avec tout le monde et ses blessures.
Et vous pouvez réécouter Nicolas Demorand dans Grand Vous Fasse il y a quelques semaines, guillemette.
Ouais, je suis d'abord épatée par cette chronique, et d'un. Et de deux, c'est pas loin de rejoindre bizarrement le sujet de l'émission, c'est-à-dire cette sens de la provocation, de dire je suis une salope, je suis un puceau, je suis. C'est aussi une manière, en fait, de grâce à l'humour, une espèce d'orgueil, de balancer le stigmate à la gueule des autres.
La chronique avec la langue de Julie Neveu à réécouter sur l'appli Radio France. Merci aux amis du vendredi, Thibaut, Julie, Guillemette, Céline et Christilla. Merci Yves Lavandier. L'essence Merci de la Ali. Comédie et votre Bible, la dramaturgie, s'est publiée aux Impressions Nouvelles. Merci Frédéric Segrist. On peut podcaster Blockbuster sur l'appli Radio France. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans l'émission Bel et Bien, co-présentée avec Agathe Lecar à 9h30 sur France 2. Et lundi, ça c'est pour Guillemette, comment se motiver à refaire du sport.